Chapitre 10. Le jugement. Durant tout le trajet de Paris à Pontoise, la comtesse Mao, dans sa litière, chercha des arguments propres à fléchir le courroux du roi. Mais elle parvenait mal à fixer ses idées. Trop de pensées l'habitaient, trop de craintes, trop de colère aussi, contre la folie de ses filles, contre la bêtise de leur mari, contre l'imprudence de leurs amants, contre tous ceux qui, par légèreté, aveuglement ou quête sensuelle, risquaient de ruiner le laborieux édifice de sa puissance. Mère de princesse répudiée, que deviendrait Mao ? Elle était bien décidée à noircir autant qu'elle le pourrait la reine de Navarre et à rejeter sur celle-ci toute la culpabilité. Marguerite n'était pas sa fille. Pour ses propres enfants, Mao plaiderait l'entraînement, le mauvais exemple. Robert d'Artois avait mené la troupe bon train, comme s'il voulait faire montre de zèle. Il prenait plaisir à voir le chanoine chancelier rebondir sur sa selle et surtout à entendre les gémissements de sa tante. Chaque fois que de la grande litière secouée par les mules s'échappait une plainte, Robert, comme par hasard, faisait forcer l'allure. Aussi, la comtesse eut-elle un râle de soulagement quand apparurent enfin, au-dessus d'une ligne d'arbres, les tourelles de Maubuisson. Bientôt, l'équipage pénétra dans la cour du château. Un grand silence y régnait, rompu seulement par le pas des archers. Mao descendit de litière et, à l'officier de garde, demanda où était le roi. « Il rend justice, madame, dans la salle capitulaire. » Suivi de Robert, de Thierry d'Hirson et de Béatrice, Mao se dirigea vers l'abbaye. En dépit de sa fatigue, elle marchait vite et ferme. La salle capitulaire offrait ce jour-là un spectacle inhabituel. Sous les voûtes froides qui abritaient d'ordinaire des assemblées de nonnes, toute la cour de France se tenait figée devant son roi. Quelques rangs de visages se tournèrent à l'entrée de la comtesse Mao, et un murmure courut. Une voix, qui était celle de Nogaret, s'arrêta de lire. Mao vit le roi, couronne en tête et sceptre en main, l'œil grand ouvert, immobile. Dans la terrible fonction de justice qu'il remplissait, Philippe le Bel semblait absent du monde, ou plutôt, il semblait communiquer avec un univers plus vaste que le monde visible. La reine Isabelle, Marigny, Charles de Valois, Louis d'Evreux, ainsi que les trois princes et plusieurs grands barons, étaient assis à ses côtés. Au pied de l'estrade, trois petits moines agenouillés inclinaient vers les dalles leurs crânes rasés. Alain de Pareil se tenait un peu en retrait, debout, les mains croisées sur la garde de son épée. « Dieu soit loué !» pensa Mao. « J'arrive à temps. On juge quelque affaire de sorcellerie ou de sodomie. » Elle s'apprêtait à gagner l'estrade où son rang de père du royaume lui donnait place. Soudain, elle sentit ses jambes se dérober. L'un des pénitents agenouillés avait levé la tête. Mao reconnut sa fille Blanche. Les trois princesses avaient été rasées et vêtues de bure. Mao chancela sous le cou avec un cri sourd, comme si on l'avait frappé au ventre. Machinalement, elle s'accrocha au bras de son neveu, parce que c'était le premier bras qui se trouvait là. « Trop tard, ma tante. Hélas, nous arrivons trop tard, » dit Robert d'Artois, qui savourait pleinement sa vengeance. Le roi fit un signe au garde des Sceaux qui reprit la lecture du jugement. « Et par les dix témoignages et aveux ayant été prouvés adultères, lesdite dame Marguerite, épouse de Monseigneur le roi de Navarre, et Blanche, épouse de Monseigneur Charles, seront emprisonnés dans la forteresse de Château-Gaillard, et ce, pour le restant des jours qu'il plaira à Dieu de leur accorder. « À vie, » murmura Mao. « Elles sont condamnées à vie. » Aussi dame Jeanne, comtesse palatine de Bourgogne et épouse de Monseigneur de Poitiers, étant considérée qu'elle n'a point été convaincue d'avoir forfait le mariage et que ce crime ne peut lui être imputé, mais étant établies les complaisances coupables qu'elle eut, sera enfermé en le donjon de Dourdan, pour autant qu'il sera nécessaire à sa repentance et qu'il plaira au roi. » Il y eut un temps de silence pendant lequel Mao pensa, en regardant Nogaret, « C'est lui, c'est ce chien qui a tout fait, avec sa rage d'épier, de dénoncer et de tourmenter. Il me le paiera de sa peau. » Mais le garde des Sceaux n'avait pas achevé sa lecture. Aussi, les sires Gautier et Philippe Daunet, ayant forfait à l'honneur et trahi le lien féodal en commettant l'adultère avec personne de majesté royale, seront roués, écorchés vifs, châtrés, décapités et pendus au gibet public de Pontoise, au matin du jour à suivre celui-ci. Ainsi, notre très sage, très puissant et très aimé roi, notre sire, en a jugé. Les épaules des princesses avaient frissonné pendant l'énoncé des supplices qui attendaient leurs amants. Nogaret roula son parchemin et le roi se leva. La salle commença de se vider dans un long murmure qui résonnait entre ces murs habitués à la prière. La comtesse Mao vit qu'on s'écartait d'elle et qu'on évitait son regard. Elle voulut aller vers ses filles, mais Alain de Pareil lui barra le passage. « Non, madame, » dit-il. « Le roi n'autorise que ses fils, s'il le désire, à entendre l'adieu de leurs épouses et leur repentir. » Elle chercha aussitôt à se retourner vers le roi, mais celui-ci était déjà sorti, de même que Louis de Navarre et Philippe de Poitiers. Seul des trois époux, Charles était resté. Il s'approcha de Blanche.
« Je ne savais pas, je ne voulais pas, Charles !» dit celle-ci en éclatant en sanglots.
Le rasoir avait laissé sur sa tête chauve de petites plaques rouges. Mao se tenait à quelques pas, soutenu par son chancelier et sa demoiselle de Parage.
« Ma mère !»
lui cria Blanche.
« Dites à Charles que je ne savais pas et qu'il m'accorde pitié !»
Jeanne de Poitiers se passait les mains sur les oreilles qu'elle avait un peu décollées, comme si elle ne s'habituait pas à les sentir nues. Adossée contre un pilier près de la porte, Robert d'Artois, les bras croisés, contemplait son œuvre.
« Charles ! Charles !»
répétait Blanche. À ce moment, s'éleva la voix dure d'Isabelle d'Angleterre. « Point de faiblesse, Charles ! Restez prince !» dit-elle. Ces mots provoquèrent un sursaut de fureur chez la troisième condamnée, Marguerite de Bourgogne.
« Point de faiblesse, Charles ! Point de pitié !»
s'écria-t-elle.
« Imitez votre sœur Isabelle qui ne peut comprendre les élans d'amour. Elle n'a que haine et fiel dans le cœur. Sans elle, vous n'auriez jamais rien appris. Mais elle me hait, elle vous hait, elle nous hait tous !»
Isabelle considéra Marguerite avec une colère froide. « Dieu vous pardonne vos crimes, » dit-elle.
« Il me pardonnera plus vite mes crimes, qui ne fera de toi une femme heureuse !»
lui lança Marguerite.
« Je suis reine, » répliqua Isabelle. « Si je n'ai pas le bonheur, au moins j'ai un sceptre et un royaume que je respecte. Moi, si je n'ai pas eu le bonheur, au moins j'ai eu le plaisir qui vaut toutes les couronnes du monde et je ne regrette rien. »
Dressée en face de sa belle-sœur qui portait diadème, Marguerite, le crâne dénudé, le visage ravagé par l'angoisse et les larmes, trouvait encore la force d'insulter, de blesser et de plaider pour son corps.
« Il y avait le printemps !» dit-elle d'une voix pressée, haletante. « Il y avait l'amour d'un homme, la chaleur et la force d'un homme, la joie de prendre et d'être prise. Tout ce que tu ne connais pas, que tu crèves de connaître et que tu ne connaîtras jamais. Ah, tu ne dois guère être attirante au lit pour que ton mari préfère chercher son plaisir auprès des garçons. »
Blême, mais incapable de répondre, Isabelle fit un signe à Alain de Pareil.
« Non !» cria Marguerite. « Tu n'as rien à dire à messire de Pareil. Je l'ai déjà commandé, et je le commanderai peut-être de nouveau quelques jours. Il souffrira bien encore une fois de partir à mon ordre. »
Elle tourna le dos et indiqua d'un signe au chef des archers qu'elle était prête. Les trois condamnés sortirent, traversèrent sous escorte la cour de Maubuisson et regagnèrent la chambre qui leur servait de cellule. Quand Alain de Pareil eut refermé la porte sur elle, Marguerite courut au lit et s'y jeta en mordant les draps.
« Mes cheveux, mes beaux cheveux !»
sanglotait Blanche. Jeanne de Poitiers cherchait à se rappeler l'aspect du donjon de Dourdan.